Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. La prison centrale de Walika Léonore Kivu, qualifiée de mouroir par l'élu de ce territoire, Prince Kiangi, Téné, 16 détenus sont morts entre le 31 mars et le 8 juin dernier, dit-il. Ce notable condamne le silence et l'inaction du gouvernement face à cette situation qui perdure. Ituri, diminution sensible des violences des groupes armés depuis mai dernier dans le territoire de Djougou. Les services de sécurité attribuent cela aux efforts du gouvernement et des leaders communautaires avec l'appui de la MONUSCO pour sensibiliser les miliciens à déposer les armes. Et puis, l'invité de ce matin, Joël Moutangilaï, secrétaire administratif de la chefferie de Bavira au sud Kivu, il nous parle de la réunion tenue récemment sur la situation sécuritaire à la suite de la mission conjointe d'évaluation initiée par la section des affaires civiles de la MONUSCO. Madame, Messieurs, bonjour. Nord Kivu, dans le territoire de Walikale, deux détenus sont décédés le 7 et le 8 juin par manque des soins médicaux et de nourriture dans la prison centrale. Dans un communiqué de presse de vendredi 9 juin, un élu local de Walikale qualifie cette prison de mouroir et affirme que ce nouveau décès porte à 16 le nombre enregistré après son alerte du 31 mars 2023. D'après Prince Kiangi, ces deux détenus sont morts en détention préventive. L'un arrêté depuis une année et l'autre deux ans. Ce notable de Walikale condamne le silence et l'inaction du gouvernement face à cette situation qui perdure, a dit Prince Kiangi au micro de Sifa Maguru.
C'est dans cette prison où on peut détenir quelqu'un pendant plus de deux ans sans avoir comparu. C'est rare que la chambre foraine s'organise à Walikale. Et lorsque les dossiers sont fixés au tribunal militaire de garnison de Goma, la justice militaire a difficile de faire voyager ces détenus pour les amener jusqu'à Goma. Et pendant tout ce temps, les détenus n'ont accès ni à l'eau potable, ni aux soins de santé. Voilà pourquoi nous voulons demander à l'autorité provinciale, ainsi qu'à tous les partenaires qui interviennent dans le secteur, à bien vouloir prendre toutes les dispositions afin d'organiser une chambre foraine à la prison centrale de Walikale, mais aussi voir dans quelle mesure on peut venir en aide à tous ces locataires de la prison centrale de Walikale pour éviter que d'autres morts soient enregistrées.
L'élu de Walikale ajoute que cette prison d'une capacité de 50 personnes en héberge actuellement 190, toutes catégories confondues, et dans des conditions inhumaines. 95% d'entre eux sont en détention préventive, précise-t-il dans son communiqué de presse. Autre nouvelle, à moins d'un mois de la fin de l'année scolaire 2022-2023, les enseignants de plusieurs zones éducationnelles de près de 11 territoires dans les provinces du Kasaï, Équateur et Grand Bandundu demeurent impayés depuis plus de 3 mois. La Confédération syndicale du Congo attribue cette situation à la lenteur de la banque à libérer l'argent auprès de la Caritas qui a la charge de payer ses enseignants. Dans un plaidoyer hier, Sylvain Kachama, permanent de la Confédération syndicale du Congo dans l'espace Grand Kasaï, en appelle à l'intervention du gouvernement central pour décanter la situation. Sylvain Kachama, joint par Pierrot Elamenji.
Je me suis indigné de voir le mauvais traitement de travailleuses et travailleurs enseignants de Bassankoussou, Bolomba, Befale, Djolou, Bokungu, Ikela, Mokoto, Mweka, Ilebo, Kole, Lomela. Les 11 territoires impayés il y a de cela 3 mois. Comment ces gens ici peuvent survivre? Ils peuvent manger comment? Ils ont des enfants qui sont en train de scolariser. Comment ils doivent vivre réellement? Quand nous sommes allés voir l'UFORD, l'UFORD nous a dit que le problème n'est rien. Comme pas, la situation est au niveau de la banque centrale qui est en train de manœuvrer avec l'Equity Bank. Au lieu de disposer 80 milliards de francs congolais, l'Equity Bank dispose que 300 millions de francs congolais qui ne représentent rien. Vraiment pour ces enseignants de ces territoires. À cela, nous demandons à l'UFORD d'abord de faire la haute pression au niveau de la Banque centrale et de l'Equity Bank qui paye les enseignants pour disposer aussi ce montant afin de libérer automatiquement ceux qui sont au niveau local. On demande aussi au gouvernement de la République de voir aussi avec son œil vraiment au niveau de la Banque centrale où il y a deux manœuvres qu'on ne veut pas tout simplement payer les enseignants.
Dans l'actualité aussi, pose de la première pierre pour la construction de l'Académie Dr. Étienne Tshisekedi. C'était hier dans la commune de Bandalungwa à Kinshasa, une initiative de la Fondation Étienne Tshisekedi. Sur une superficie de 1500 m², l'entreprise Asav Izurba Hydromas devra ériger dans 10 mois un bâtiment de 3 niveaux comprenant un amphithéâtre, les salles de cours, les bureaux administratifs ainsi que 6 appartements pour les professeurs visiteurs. Mais en quoi constituera les activités de cette académie? Le directeur général de la Fondation Étienne Tshisekedi wa Mulumba, Haruna Ndarabu, donne des explications au micro de Richard Junior Kamunga.
Créé dans le but d'assurer l'extension continuelle des idéaux, de valeurs prônées par feu Dr. Étienne Tshisekedi wa Mulumba, le long de sa vie. Cette académie est en fait une école post-universitaire, ne seront agréés que de licenciés dans n'importe quel domaine, droit, médecine, sciences politiques, des ingénieurs et autres. Donc une école post-universitaire de formation professionnelle où on commencera à délivrer des masters professionnels après une formation de 2 ans dans des domaines, entre autres, de la culture, de la paix, et règlements pacifiques des différends, la démocratie sur la bonne gouvernance, sur l'éthique, et donc différentes valeurs qui ont été prônées et défendues par Dr. Étienne Tshisekedi. Et donc ça sera maintenant retransmis pour essayer de les pérenniser de génération à génération à tous les étudiants qui vont le désirer, tous les apprenants, quelles que soient leurs origines, la race, tout ça. Et les soucis est d'immortaliser Étienne Tshisekedi, de faire de lui une source d'inspiration et des motivations positives pour que les jeunes, pour que les nouvelles générations apprennent de lui, apprennent de son combat et essayent de mettre en pratique toutes ses valeurs.
Sachez aussi que le président Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré hier une usine de montage des bus Mercedes-Benz au quartier industriel dans la commune de Limété. Cette unité industrielle certifiée a été construite par l'entreprise Suprême Automobile, propriété de l'homme d'affaires indien Harish Jagtani. L'usine est dotée de toute la chaîne de montage pour produire 2 gammes de bus Mercedes-Benz pour servir de transport en commun. Selon la présidence de la République, dans sa première phase de démarrage, l'usine Mercedes-Benz de Kinshasa compte produire 25 bus par mois et va employer environ 500 travailleurs, dont des mécaniciens congolais formés par la maison mère. L'usine de Limité va assurer le service après-vente ainsi que la commercialisation des pièces de rechange, a encore précisé la présidence de la République. Direction l'Ituri. Les violences des groupes armés ont sensiblement diminué depuis mai dernier dans le territoire de Djougou. Selon le rapport des services de sécurité, 29 personnes, dont 19 civils, ont été tuées le mois dernier contre plus de 300 au premier trimestre de cette année dans cette entité territoriale. Les services de sécurité attribuent cette amélioration de la sécurité aux efforts du gouvernement et des leaders communautaires avec l'appui de la MONUSCO pour sensibiliser les miliciens à déposer les armes. Le point avec Isaac Remoyope.
Une accalmie s'observe depuis plus d'un mois dans presque toutes les localités du territoire de Djougou, affirment des sources concordantes. Les rapports des services de sécurité des mois de mai révèlent que 31 attaques des groupes armés ont été enregistrées sur toute l'étendue de ces territoires. Le bilan est de 19 civils tués, dont un chauffeur d'une voiture. 6 vieux sages de la chefferie de Banyariki ont été enlevés, dont 2 ont été tués et 4 autres libérés après avoir subi des tortures à Bounzenzele. 6 miliciens sont morts et 6 autres blessés pendant les affrontements contre les FARDC. Du côté de l'armée, on déplore 3 morts et 2 armes récupérées par des assaillants. Un policier a été également abattu lors d'une attaque des groupes armés dans le village de Kessi. Ces rapports des services de sécurité révèlent aussi que 33 maisons ont été incendiées lors de l'incursion des miliciens et plusieurs cas de pillage. Cependant, ces exactions sont de moins inférieures aux 3 premiers mois de cette année 2023 où plus de 350 personnes ont été tuées par les milices actives en Ituri. C'est le résultat des dialogues, des activités de sensibilisation ainsi que du lancement de l'opération de désarmement qui a permis à plus de 100 miliciens de déposer les armes. La société civile locale demande au gouvernement de pérenniser ses acquis pour la construction d'une paix durable en Ituri. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi la sortie officielle du parti Juste Patriote pour la République, hier à Kinshasa. Devant plus d'une centaine de cadres, membres et militants, le député national Grégoire Mirindi, qui en est l'initiateur, a justifié la création de cette formation politique par le souci de trouver des solutions immédiates aux maux qui gangrènent la société congolaise sans tergiverser et sur base de la doctrine progressiste pragmatique. Grégoire Mirindi s'est dit être prêt à soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi à la prochaine présidentielle si son plan d'action rencontre les aspirations de la population. Il a dit dans ses propos recueillis par Junior Ika.
L'originalité, c'est notre approche du développement de ce pays. Nous ne sommes pas ni communistes ni rien du tout, nous sommes juste des progressismes pragmatiques. Notre doctrine repose sur, uniquement et exclusivement sur les cinq sens. Tout politicien qui veut servir le peuple, qui vous dit qu'il va réaliser ou qu'il va réaliser des projets ou des programmes, et que le peuple n'est pas à même de voir, entendre, dégoûter, détoucher, c'est-à-dire que ces projets-là n'existent pas. Pour nous, tout ce qui échappe aux cinq sens n'existe pas. Il faudrait que la population s'habitue à demander aux politiciens. Vous avez dit ça, nous avons entendu. Mais est-ce que nous avons vu? Est-ce que nous avons touché? Est-ce que nous avons goûté? C'est autant, en fait, d'éléments nouveaux que nous amenons dans la classe politique. Je n'ai pas dit jusque-là que je soutiens, oui ou non, l'union sacrée. L'union sacrée pour la nation, je soutiens à condition que dans cette union-là, on nous dise quelle est la finalité. Si la finalité, c'est pour le partage du pouvoir, moi, je vous dis que sous réserve de ce que les cofondateurs vont dire et les organes, je ne marcherai pas.
Et puis, mobiliser les leaders d'opinion de la jeunesse congolaise en perspective des élections de décembre 2023, c'est le but du point de presse tenu hier à Kinshasa par le responsable de l'ONG Horizon Énergie Développement. Pour Yves-Antoine Mbaki, il est nécessaire d'éveiller la conscience des jeunes pour mettre immédiatement un terme à l'aventure des migrations politiques. Au micro de Richard Junior Kamunga, Yves-Antoine Mbaki, l'initiateur d'Horizon Énergie Développement, lance un appel aux jeunes. On l'écoute.
Ce message pour l'avènement d'un Congo nouveau est un appel à la mobilisation générale adressé à l'élite de la jeunesse congolaise par ses leaders d'opinion de toutes les tendances conscients du devoir de provoquer le changement qualitatif au scrutin de décembre 2023 qui requiert, bien plus que d'une stratégie, une cohésion à partir des entités de base à la définition d'une majorité plus cohérente. Vous devez savoir, chers jeunes, qu'il vous incombe sans délai de mieux préparer et qualifier les électeurs autour du choix des futurs élus sur base d'un critérium axé sur la réputation, la proximité, la confiance, la sagesse et l'intelligence d'une vision structurée pour le progrès collectif en disqualifiant ceux des élus à la conduite non satisfaisante pour un Parlement plus digne. Vous n'avez pas d'excuses, vous plus jeunes, comme s'exprimait le journaliste Alain Foucault en exhortant la jeunesse africaine pour ne pas inverser cette tendance qui plombe le développement par votre vocation à créer des mouvements de conviction et d'emmener à croire par les vertu dans le travail que la RDC est capable de surprendre.
Province du Maniema, la plateforme Pona Congo a organisé hier à Kindu une campagne de consultation populaire appelée Congo Tolingi en faveur des représentants de certaines associations des jeunes. Objectif visé, recueillir des difficultés, les vrais problèmes de la population afin de constituer un cahier des charges entre acteurs politiques et population. À l'issue de cette rencontre d'une journée, il y a eu création d'un focus group qui auront comme mission d'étendre cette activité dans les coins reculé de la province afin d'éveiller la conscience de la population à la veille des élections. On écoute à ce sujet John Kakandu Ndarabu, point focal de Pona Congo, section Kindu Maniema. Il est au micro de Florence Kizalunga.
La campagne Congo Tolingi vise à recueillir les informations, les difficultés de la population, toutes les difficultés de tous les coins pour finalement constituer un cahier de charges qui va contenir toutes les difficultés et le cahier des charges sera appelé contrat social. Le contrat social va premièrement faciliter aux politiciens de ne plus parler beaucoup. Nous sommes en train de voir la philosophie de leur diminuer la tâche. Parce qu'il se fait qu'il y a certains politiciens qui viennent dans le terrain et ils n'ont pas de matière. Ils viennent avec des discours qui ne sont même pas enrichis. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous sommes aussi en train d'éveiller la population pour que cette population ne puisse plus rester en train d'être trompée par les t-shirts, les selles, quelque chose compagne, pour acheter leur conscience. C'est comme ça qu'il faudrait que cette population ait ce contrat social pour que, lorsque les politiciens vont venir, ils vont leur dire, « Tac, monsieur, vous venez ici, vous nous trouvez déjà avec les contrats ici. Est-ce que tu vas obéir à ces contrats ? Lequel contrat qui sera à la longue surveillé entre population et acteurs politiques ? »
Rendons-nous au Congo central. Nous apprenons qu'à cause d'une suspicion d'infidélité, un homme a tué sa concubine et son enfant de 3 ans dans la nuit de vendredi à hier samedi. Le drame est survenu dans le groupement Vuangu, secteur de Kakongo, territoire de Lukula. Le commandant du commissariat territorial de la police à Lukula qui rapporte les faits indique qu'après la découverte des 2 cadavres, les habitants de ce village ont aussi tué cet homme par lapidation hier matin. Récit des faits avec Nana Plurish Mambou.
C'est par plusieurs coups de fusil calibre 12 que Malonda Mabiala Crispio a tué sa concubine Mve Kasoki Césarine, âgée de 30 ans, et leur fillette de 3 ans du nom de Daniela Malonda. Les cadavres de la mère et de la fille ont été découverts au milieu de la nuit par la population du village Nguela que le coup de feu a réveillé. Malonda Mabiala Crispio, qui a pris la fuite après son forfait, a été retrouvé dans la brousse le matin d'hier samedi par la population. Il a été battu à coups de pierre avant d'être brûlé vif. La population présente lors de sa lapidation indique qu'avant de rendre l'âme, Malonda Mabiala Crispio avait accepté son crime et a évoqué comme motivation la suspicion d'infidélité de sa concubine Mve Kasoki Césarine et aussi ses doutes à propos de sa paternité par rapport à la fille tuée avec sa mère. Les restes de Malonda Mabiala Crispio ont été enterrés après les constats des autorités locales, tandis que les corps de la mère et fille sont gardés à la morgue de Lukula. Cet homme laisse 2 veuves et plusieurs enfants. Matadi, Nana Plurish Mambou, Radio Okapi.
Actualité, Afrique Monde.
Nous sommes au Soudan. Une énième trêve pour permettre l'arrivée de l'aide humanitaire. L'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan ont accepté un énième cessez-le-feu de 24 heures, entré en vigueur hier matin et négocié la veille par les médiateurs américains et saoudiens. Les précédentes trêves n'ont quasiment jamais été respectées depuis que le conflit a éclaté le 15 avril dernier.
L'invité.
Sud Kivu, évaluer la situation sécuritaire et de la protection civile dans le cadre de la bonne gouvernance sécuritaire, c'est l'objectif d'une réunion du Conseil local de sécurité de proximité qui s'est tenue vendredi au village Katongo, groupement de Kalungé, chefferie de Bavira dans le territoire d'Uvira. Le secrétaire administratif de la chefferie de Bavira, Joël Mutangilai, est notre invité. Il parle de cette réunion qui s'est tenue à la suite de la mission conjointe d'évaluation initiée par la section des affaires civiles de la MONUSCO en collaboration avec la chefferie de Bavira, avec la participation des autres sections substantives de la MONUSCO, du parquet de grande instance d'Uvira, du commissariat de la police district d'Uvira et des médias locaux. Joël Mutangilai s'entretient avec Fiston Goma.
Joël Mutangilai, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes représentant du chef de la chefferie de Bavira ici à Katongo. C'est pour la toute première fois que vous déplacez tout un conseil de sécurité au niveau d'un village. Quelle est l'importance que vous accordez à ces groupements de Kalungwe?
Notre chefferie, c'est une chefferie qui est en grande partie enclavée dans les moyens et hauts plateaux. Alors la partie littorale qui reste, c'est la partie qui renferme certains villages du groupement Kalungwe et du groupement Kamba-Makongo. Donc nous avons été à Katongo justement parce que c'est parmi nos villages qui sont en voie d'émergence. Nous sentons qu'il y a quand même un engouement au niveau de la population pour le développement de l'entité. Donc on trouve que c'est un village qui peut être un jour, mais aussi un village qui est hospitalier, un village qui est appréciable par tout le monde. C'est pourquoi nous avons eu à diligenter cette réunion de sécurité et déplacer tous les conseils locaux pour la sécurité de proximité au niveau de ces villages, afin de trouver des solutions durables, si pas provisoires, à cette situation sécuritaire qui ne cesse de se détériorer au niveau de ces villages. Donc le groupement Kalungu en soi, c'est un groupement potentiellement riche, et un groupement qui est le long de la RN5, c'est proche aussi de l'entité ville d'Uvira, ce qui fait à ce qu'on puisse un peu préserver des retombées qui peuvent avoir lieu dans notre jeune ville d'Uvira, pour qu'on essaie un peu de dénicher les vrais problèmes qui touchent la sécurité au niveau du village Katongo et justement, d'une manière générale, un groupement de Kalungwe.
Quelles sont les préoccupations de la population locale autour de la sécurité ici?
Bon, les préoccupations étaient surtout centrées sur les différentes exactions commises durant les 2 dernières semaines, soit par des inciviques armés, ou soit certains éléments de nos forces armées de la République d'une manière indisciplinée. Tant des préoccupations s'agissant du commandant des forces armées de la République sur place à Katongo, qui est impliqué dans plusieurs exactions commises, et différents autres cas d'incivisme qui ont été commis dans les villages.
En dehors de ces cas d'exactions, qu'est-ce que vous avez lu dans la population pendant que vous échangez avec elle?
Justement, il y a eu d'abord ces crises de confiance, ça on l'a constaté, on ne peut que l'évoquer, entre la population et nous d'abord les autorités locales, et d'une part la PNC et nos forces armées de la République. Et c'était juste une question de manque d'informations aussi, d'autre part, parce que la population elle n'est pas souvent habituée à ce genre de missions sécuritaire de la part de la chefferie ou soit d'autres partenaires comme la MONUSCO qui nous a accompagnés aujourd'hui, que nous avons senti une sorte de manque d'information, manque de connaissances en droit de l'homme ou en protection civile. Donc il suffisait non seulement de relever aussi les défis en capacitation au niveau de la société civile pour essayer un peu de trouver des mécanismes d'information ou soit des dénonciations de ces genres de cas d'insécurité dans la cité. Il y avait une sorte de non-rapprochement entre les autorités locales et la population au niveau de la base.
Qu'est-ce que vous avez fait concrètement une fois arrivé ici sur le terrain?
Nous avons essayé un peu de montrer à la population l'importance de collaborer. Cette cohabitation entre la population et nos forces armées de la République qui sont ici, ainsi que la police nationale congolaise qui est sur place ici à Katongo, mais aussi de renforcer aussi cette même confiance entre cette population et nous, les autorités locales. Conseil local pour la sécurité des populations, mais aussi le forum sécuritaire des groupements et le forum sécuritaire des villages qui doivent être redynamisés et essayer de jouer leur rôle et en fait d'espérer à une paix durable dans ces villages. La population nous a demandé le départ du commandant des FRDC sur place, du commandant au niveau du poste de la PNC dans les villages Katongo, qui est aussi un chef-lieu du groupement de Kalungo, là où nous sommes exactement. Nous avons eu à recommander aussi à la population par cette culture civique de dénoncer, de trouver ces mécanismes de transfert d'informations, surtout quand il s'agit des cas touchant la sécurité dans la cité, et de ne pas aussi se fier aux différentes rumeurs qui circulent dans l'entité. Éviter aussi des actes d'incivisme, les actes d'incitation à la haine, des révoltes populaires, ça n'avantage à rien notre entité, que la sécurité est une affaire de tous. Ça doit provenir de la base, de collaborer avec les forces armées qui sont sur place, parce qu'ils sont là pour la protection des civils et leurs biens. Ils ne sont pas là pour les nuire. Mais sans leur collaboration, nous voyons mal comment les FRDC s'en sortiront dans ces milieux.
Le secrétaire administratif de la chefferie de Bavira au Sud qui vous répondait aux questions de Fiston Ngoma Mayabala. C'est la fin de ce journal coordonné par Noëlla Luzitu. Merci de nous avoir suivis.